الله أكبر. الله الله أكبر.
Qu'est-ce qui tient, dis donc ? Là. Tu vois, c'est pour ça que dans d'autres pays, l'alcool est interdit. Hein ? Là, regarde l'appel à la prière, là, c'est vraiment loupé, quoi. Le muezzin n'arrive pas. Il est pâteux, c'est un muezzin vachement pâteux. Hein. Il n'arrive pas, quoi. Écoute, il n'arrive pas, il ouvre un œil, l'autre se referme. Ah, c'est bien beau, hein, hein. On ne respecte plus rien, puis voilà, quoi. Ah bah oui, mais... Hey.
L'alcool est autorisé, les femmes peuvent marcher la tête découverte, elles peuvent conduire des voitures...
Oui, très bien, mais voilà le résultat. Voilà le résultat. Heureusement, c'est dans un quartier désert, quand même. Hein. Ça se remarque pas trop, quoi. Heureusement.
Oui, les sept qui marchent dans la rue, t'as vu, c'est des Indiens.
Ouais. C'est des Indiens peut-être, mais il y a quand même des musulmans.
Il y a le vent de sable. Hein.
Oh, dis donc, il y a un vent qui se lève. Et les feuilles.
Bougainvillière.
Oh, il roule par terre. Il y a une feuille séchée. Et la température baisse peut-être un petit peu, mais tout à l'heure, il faisait 40-41. Hein. Et ça, c'est rien, parce que l'été... C'est 50. Et voilà, c'est le début. C'est le début des reportages que nous vous présenterons à partir de lundi, c'est pas tout de suite, à Dubaï. Dubaï, fini dans la base, si j'y suis, tous ces sujets médiocres, pauvres, oui, voilà. Et on va dans un pays riche, une ville très riche, Dubaï. Que font-ils de leur argent depuis des années? On se pose la question. Le néolibéralisme, contrairement à ce qu'on vous dit dans certaines émissions sur France Inter, chaque jour entre 17 et 18 heures, ne fait pas que des malheureux. Et on en aura la preuve à Dubaï à partir de lundi. Une suite de reportages extrêmement luxueux. Mais c'est pas tout ce qui est arrivé. Il est arrivé aussi pas mal de messages dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Allô, bonsoir, bonjour plutôt. Après les reportages extraordinairement émouvants et intéressants de cette semaine sur les Chibani, je crois qu'il serait bon de se souvenir que pendant que Amar, Ali, Mustapha, Septi et les autres vivent cette vie qui n'en est pas vraiment une, à Marseille et ailleurs, il y a de nombreux retraités français qui coulent des jours heureux au Maroc, avec un niveau de vie extraordinaire, avec une réduction d'impôts, avec une fierté grotesque de pouvoir employer des bonnes, comme ils disent. Alors ça, c'est tout à fait terrifiant de voir ça. Il y a eu plusieurs reportages à la télé, et moi, j'en ai rencontré ces gens-là, et j'en ai rencontré encore récemment au Maroc. Voilà, donc, autre retraité, autre milieu, et pourtant, ce ne sont pas toujours des gens très riches. Hein. Il ne s'agit pas de notre ministre de l'Intérieur ou de BHL qui peuvent vivre la vie de la Jet Set à Marrakech. Il s'agit de simples Français, des gens comme vous et moi, qui vivent d'une façon que je qualifierais de totalement vulgaire et grotesque dans un pays dont ils ne perçoivent rien d'autre que des avantages fiscaux et un niveau de vie et une espèce de facilité de néo-capitaliste qu'ils ne sont pas d'ailleurs. Enfin, ils ne comprennent rien à rien. Voilà, je trouve ça très triste et je voulais tout de même le signaler pour faire un parallèle un petit peu désolant. Merci à tous et à lundi. Au revoir.
Bonjour, c'est Thérèse. Il n'y a pas que les étrangers qui n'ont pas de retraite et dont les parents n'ont pas été déclarés. Il y a les agricultrices aussi qui ont travaillé pendant de nombreuses années sans être déclarées. Et donc la solidarité n'est pas toujours pour tous les Français, Françaises. Ceci dit, je suis aussi d'accord avec cette dame quoi, qui est en train de parler en ce moment. Au revoir.
Ouais, bonjour. Daniel, merci pour tes reportages sur l'Algérie. Je suis marocain, mais ça n'a pas d'importance. Je m'appelle Ahmed. On dit toi hashtag, c'est pas toi hashtag. Et ça veut dire tu me manques. Voilà, continue comme ça. Merci Dan. Salut à toute l'équipe.
Je vous remercie d'attirer l'attention sur cette inégalité apparente qui est faite à ces gens au niveau de leur retraite. Inégalité que de l'administration française. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que à un moment donné, vous avez déplacé le problème en le mettant sur le plan moral, en disant que bon, les Chibani avaient massivement contribué à reconstruire la France dans ces années-là, et que donc la France avait en quelque sorte une dette vis-à-vis d'eux. Je suis désolé, mais ça c'est totalement hors sujet. Ces Chibani sont venus en France, enfin à l'époque c'était pas des Chibani évidemment, c'était des jeunes gens. Ils sont venus en France pour gagner de l'argent, comme l'un d'entre eux l'a bien déclaré dans son témoignage, et non pas pour reconstruire la France, donc la dette, il n'y a pas de dette, c'est totalement hors sujet. Donc en élargissant la focale, je dirais que cette injustice administrative qui soi-disant est faite aux Chibani aujourd'hui répond à une injustice historique, une aberration historique beaucoup plus grave qui a été faite à la population française en étant obligée d'accepter l'inacceptable, à savoir des centaines de milliers de gens avec lesquels ils ont été en guerre quelques années auparavant. Hein. Les accords d'Évian venaient juste d'être signés. L'Algérie avait eu son indépendance. Il fallait séparer les peuples pour une durée indéterminée. Bon, ces élites françaises, entre guillemets, élites, ont eu l'idée de ne pas faire ça. Bon. Vous devriez faire une émission là-dessus. Sur ce qu'ont ressenti les Français dans ces années 60, et en particulier les pieds noirs, imaginez. En voyant arriver tous ces travailleurs venus du Maghreb, ça serait intéressant. Bon, je vous remercie. C'est Franck Dumont. Au revoir.
Je suis absolument scandalisée par les messages qui sont passés justement avec Monsieur Mermet, parce que je ne savais pas que France Inter était devenue une radio de gauche et qui soutenait les musulmans et les Français de souche, on n'en parle jamais. Étant petite retraitée, n'ayant peu de choses pour vivre, et je ne suis pas seule dans mon cas, mais ça, on n'en parle pas. Hein. Alors, je suis absolument scandalisée de tout ce qui passe sur France Inter, à part la musique de 16 à 17 heures. Voilà, je m'appelle Madame Martin. Et mon téléphone que je ne tiens pas absolument pas à ce qui passe à l'antenne. Au revoir.
Je vous appelle d'abord parce que je viens d'entendre dire que Guy Drut a été amnistié par le président de la République. C'est de pire en pire, ça ne sent plus la fin de règne, ça pue la fin de règne. Et je voulais signaler par ailleurs que ce soir, donc à Lemberg, donc en Moselle, au Domino's Bar, nous nous retrouvons au repère là-bas si j'y suis à partir de 20h pour parler de démocratie locale. Allez, merci pour vos émissions, ciao.
Ce soir, tout à fait par hasard, je tombe sur une émission sur les Chibani. Il se trouve que moi qui étais au RMI depuis une dizaine d'années et qui ne voulais rien foutre, j'ai eu la chance de trouver un contrat à venir dans un foyer sur la Côtera, où je suis confronté tous les jours à des Chibani. Jamais je ne pensais, je pensais qu'on vivait dans un pays où les gens étaient traités pareil, qu'ils soient français, qu'ils soient n'importe quoi. Voilà. Et je m'aperçois que les gens ne sont pas traités pareil. Je suis content d'avoir ce travail parce que je leur rends service du plus que je peux. Voilà, je voulais vous dire que votre émission est vraiment géniale. Et ces gens-là, il faut les aider, il faut être gentil avec tout le monde, il faut être sympa avec tout le monde. Et puis, c'est le minimum qu'on doit à ces gens-là. Voilà, moi je suis heureux de faire mon travail. Je gagne pas d'argent, mais j'en ai rien à foutre. Quand je peux rendre service à un sourire d'un Chibani ou d'un je travaille dans un foyer Sokunakotra, hein, ou d'un exilé ou quelqu'un qui attend ses papiers, je lui rends un service, je change une ampoule chez lui, et il me fait un sourire, et ben putain c'est mieux que ma paye. Je remercie Daniel, je te remercie Daniel pour tes émissions. Ciao.
Ouais, salut Daniel, c'est Marie à Paris. Je viens d'apprendre que tu as décidé d'entarter le pompeux cornichon lundi soir au théâtre Béjazet. Je suis triste parce que je pourrais pas être parmi vous. J'aurais bien participé avec ou sans chemise blanche ouverte jusqu'au nombril. Ça me fait bien marrer et je trouve que c'est une fameuse idée. Malheureusement, je serai obligée, dans une commission médicale ce soir-là, d'aller défendre le fait que mon hôpital ne ferme pas au mois d'août ses portes, parce que je vais être obligée d'essayer d'aller défendre la continuité du service public. Donc voilà, je serai de tout cœur avec vous et j'y penserai bien en tapant du poing sur la table pour qu'on ne ferme pas les hôpitaux publics dans Paris au mois d'août. Je vous salue tous et amusez-vous bien lundi. Ciao.
On va essayer de s'amuser bien lundi. En effet, il faut surtout défendre les hôpitaux, évidemment, au mois d'août. C'est, me semble, aussi important que ce qui va se passer lundi soir au théâtre de Jazet, à Paris, au métro République, à partir de 20h30, le procès en réhabilitation, attention, en réhabilitation de monsieur BHL. BHL, notre gloire intellectuelle nationale, vous le savez depuis très longtemps, fait l'objet d'un véritable harcèlement critique de la part de journalistes aigris, d'intellectuels qui anonymes, etc. Et c'est absolument insupportable. Aussi a-t-on décidé ce lundi de faire ce procès en réhabilitation. Toute une pléiade de journalistes, mais des bons journalistes, d'avocats, mais des bons avocats, de dessinateurs de presse, mais de la bonne presse, etc., etc. De musiciens aussi, de bons musiciens qui viendront faire plaisir à cette auditrice, chanter la fameuse chanson en tartant le pompeux cornichon. Mais ça, ce sera alors vraiment du côté de l'attaque. Notre héros national, notre philosophe, qui fait beaucoup pour la France à travers le monde, eh bien sera défendu, n'en doutons pas, ce soir-là. Vous pouvez réserver vos places au théâtre de Jazet au numéro de téléphone suivant 01 48 87 52 55 01 48 87 52 55. La petite musique est derrière moi, vous accueillera et nous allons passer, je en suis certain, une délicieuse soirée, surtout si vous venez avec un décolleté, une chemise blanche avec un décolleté jusqu'au nombril, il y aura d'importantes réductions. Aujourd'hui, on voulait rendre hommage à Claude Piéplu, qui était un vieil ami de Là-bas si j'y suis, et notamment pour des émissions que nous avons faites ensemble il y a bien longtemps, en 83, 84. C'était une série d'émissions qui s'appelait Si par hasard au piano bar. Et puis ensuite, il était venu dans d'autres émissions que nous avons faites qui s'appelaient Bienvenue à bord du Titanic. Et j'ai gardé de ces moments-là des souvenirs absolument éblouis. Enfin, je ne vais pas dire tout ce que tout le bien que je pense de Piéplu. C'était quelqu'un de formidable. Mais manque de chance, les archives n'ont pas conservé les émissions 83-84 du piano bar. Voilà, c'est un peu dommage parce qu'il y en avait qui étaient très jolis. Peut-être parmi vous y a-t-il des collectionneurs ou des gens qui par hasard ont conservé, je ne sais pas, des copies, des cassettes de ces émissions. Si c'est le cas, ça nous ferait très plaisir de prendre contact avec vous, plutôt que vous preniez contact avec nous. Le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis, vous le connaissez, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, un petit peu dans l'esprit, après tout, de cette époque, de la grande époque de Piéplu, quelqu'un a dit excentrique et élégant à la fois. C'est vrai que c'était un homme qui portait tout un esprit qu'on pourrait qualifier de saugrenu, de surréaliste, d'une espèce de poésie qui n'était pas seulement dans les Shadok, ni seulement dans les pièces qu'il a, les rôles qu'il a joués pour Rib, mais aussi, c'était un personnage tout à fait qui pouvait jouer des rôles tout à fait tragiques, terribles même, mais qui était aussi porteur d'un esprit de nonsense, on pourrait dire, à la française. Et vous allez voir dans l'émission d'aujourd'hui, c'est une émission qu'on a revisité. Il y a, j'espère, de cet esprit-là, puisque c'est un hommage à Boris Vian. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis. Je rappelle à nouveau le numéro 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour Daniel. Voilà, donc la voix des Shadok s'est éteinte À jamais. Voilà, je voulais rendre un hommage à la personne qu'il incarnait, c'est-à-dire Claude Pieplu, voilà, qui était un comédien extraordinaire, loin de toute agitation médiatique. Ça n'empêchait pas qu'il avait énormément de talent. Voilà, je voulais saluer sa mémoire et je le connaissais un petit peu car il avait enregistré une de mes pièces qui avait été mise en onde sur France Culture. Voilà, c'est Marcel de la Drôme, du Canard en Bois exactement, petit lieu de spectacle que je dirige. Voilà, merci.
Claude Pieplu a été un jour invité sur France Inter et à la journaliste qui lui demandait s'il pensait que son engagement politique servait à quelque chose, il a répondu que même si ça devait servir à rien du tout ou à pas grand-chose, au moins ça lui permettait d'être en accord avec lui-même. Voilà, moi j'y pense souvent et je trouve ça très modeste.
Bonjour Daniel, je voulais donner un témoignage à propos du film Indigène qui sort aujourd'hui, je crois. Donc, je m'appelle Vincent, j'ai 40 ans, et puis je voulais raconter une histoire que mon grand-père m'a racontée quand j'étais enfant, en fait. C'est un épisode de la Deuxième Guerre mondiale qu'il a vécu. Donc, je crois que c'était en mai-juin 40, quand l'armée allemande arrive à Lyon, donc par la N7. Et d'après ce qu'il m'avait dit, donc Lyon était déclarée ville ouverte, c'est-à-dire que les Allemands, ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait des combats, quoi. Et puis en fait, parmi tous les soldats français, qui étaient bien moins nombreux que l'armée allemande qui arrivait, il y a eu seulement quelques unités qui ont ouvert le feu, quoi, qui ont combattu, dont celle de mon grand-père, et puis en fait, un bataillon de tirailleurs sénégalais, donc à peu près 115 hommes. Et en fait, je crois que ce sont ces tirailleurs qui se sont battus le plus longtemps, ça a duré une journée ou deux. Et puis, les Allemands, ils ont eu la supériorité, quoi, les Français se rendent. Ils sont tous faits prisonniers, donc un tirailleur sénégalais compris. Et les Allemands, donc pour se venger de cette résistance inattendue, bah ils ont fusillé tous les tirailleurs sénégalais. Et puis ils leur ont roulé dessus avec leur char. Ouais, roulé dessus. Là, c'est ce que m'a dit mon grand-père qui a vu ça de ses propres yeux. Donc il y a un cimetière là au nord de Lyon, je crois que c'est à Limonest, avec les tombes de ces soldats. Voilà, c'était juste pour dire que mes héros d'enfance à moi, qui étaient un Français, petit Français bien blanc, ils avaient la peau bien noire. Voilà. Merci, au revoir.
Bonjour, c'est un message pour les auditeurs de la région Malouine et Guinanaise pour dire que le prochain rendez-vous du Café Repère qui se passe à Plobalet au Pénalty aura lieu le mardi 30 mai. À 20h, donc toujours au pénalty, chez Marie et Pierrot. Le thème choisi pour cette soirée sera la consommation ou comment consommer autrement. Voilà, donc on vous attend comme d'habitude très nombreux. À mardi.
Prochain rendez-vous du repère de Lemberg, le vendredi 26 mai à 20h, au Domino's Bar de Lemberg. On parlera démocratie locale avec Gérard Imbert, président du Conseil de développement du pays.
Ouais, c'était pour dire que la faute de la rade de Brest pour une mère propre appelle les personnes qui n'aiment pas le cochon nourri aux EGM à venir le dire. Samedi 27 mai, au passage à Plougastel, à partir de 13h, donc il y aura des bateaux, des canoës, des chansons et du cochon grillé, mais cette fois-ci, ça sera du bon. Voilà, c'était Daniel des Plougastel, donc venez nombreux. Salut.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Christelle, Loigereau, là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
Bienvenue. Entrez. Voilà. C'est l'endroit où vous allez passer le reste de votre vie. Ça s'appelle le futur. futur, votre futur. Tout le monde en a un, hein? Chacun, moi aussi. On en a plus ou moins, on ne sait pas au juste combien. Il y en a qui l'ont devant soi comme une petite paire de Robert tout neuf. Et il y en a des vieux ramollis qui l'ont tout et kiki. On nous dit qu'on est égaux, mais pas vrai pour le futur. Et le vôtre? Combien qui mesure votre futur et quelle gueule il a? Qu'est-ce qu'il sent? Y a qui dedans, dans votre avenir? Y a quoi? De quelle couleur et en quoi qu'il est? En ciel bleu? En galère? En cul de poule? En béton? En carton? En bateau? En pétard? En fauteuil roulant? En Extrême-Orient? En miettes? En loques? En gloire? En panard? En président de la République? Et comment que ça finit le futur? Quick, Fernand, ça c'est sûr. Quack, on le sait, mais on ne croit pas, on n'y pense pas. On dirait que ça nous pense, mais nous, on n'y pense pas. On essaie de ne pas y penser à la fin du futur, au bout de l'avenir, mais on n'y arrive pas toujours. Aujourd'hui, par exemple, on ne va pas y arriver. Dans cette espèce d'espace fini et infini qui est notre avenir, notre petit bout de futur, la phrase de Boris Vian. Je voudrais pas crever, je voudrais pas crever sans avoir mis mon zob dans des coins tout bizarres. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort. On a posé avec Christelle cette question aux gens dans la rue, dans Paris, dans les boutiques, dans les métros, dans les bistrots, dans des coins tout bizarres. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens?
Connaître le vrai bonheur avec une femme. Mais le vrai bonheur, même pas physiquement, l'amour normal. Aimer une personne.
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nus, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu. Si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coins tout bizarres, je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine. Si je savais que j'en aurais l'étrenne. Il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères, et les baisers de sel, que ceci, que cela, la belle que voilà, mon ourson, Ursula. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus. Faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles. La journée de 2 heures, la mer à la montagne, la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents. Et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux inventeurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir et à entendre. Tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi, Je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche. Je voudrais pas crever, non, monsieur, non, madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.
Une fois dans ma vie, au moins une fois avant de mourir, j'aimerais... Vous aimeriez quoi ? Il y a des coups, ça peut se dire, mais le plus souvent, ça se peut pas. C'est trop fort, c'est trop fou. Un genre de dernière volonté, avec des S. Dernière S, volonté S. Des désirs, des projets, ça peut être banalement de se goinfrer Claudia Schiffer, ou alors péter très fort à l'église pendant l'enterrement de votre directeur. Ou les deux en même temps. Enfin, c'est quelque chose qui fasse qu'après vous puissiez dire, souriant, béat et serein, « Maintenant, je peux mourir. » Sur mes deux oreilles. Ce qui sera un mensonge, mais l'homme s'arrange souvent pour croire à ses propres mensonges. Ça peut être autre chose, ça peut être mille choses, ça vous regarde comme dans un miroir, ou un miroir où on se voit, où vous vous voyez, mais nous aussi on se voit, on voit un peu notre temps comme ça, en douce, dans les rues, dans les bars, dans les poissonneries et dans les alentours du commerce étrange, les marchands de réverbères. Évidemment, tout le monde n'a pas la grinçante grâce de Vian, Boris le bison ravi, mais, à l'improviste précaire, dans la rue, voilà ce qu'ont dit nos compatriotes à Christelle Loicheron.
Ah, je ne voudrais pas crever sans être monté une dernière fois à cheval. Je voudrais crever loin des miens, ma femme et de mes enfants, pour pas justement qu'ils me voient crever, qu'ils apprennent ça d'une autre manière. Mais essentiellement, je voudrais pas crever sans être monté une dernière fois à cheval. Je suis conducteur d'autobus sur la ligne 70 et je me prénomme Gilles.
Oh, that's it. Not gonna die before I have been able to travel as much as I possibly can and visit as many things as possible.
Alors, on veut pas mourir avant d'avoir vu le monde. Et vous?
Je crois que je peux dire ça aussi, oui.
Je veux pas crever avant d'avoir des enfants et me marier. Voilà, avant d'avoir une famille et être heureux dans ma vie. Voilà.
Moi, bah la même chose. C'est très important de se marier, de faire des enfants. C'est ça la vie.
Fondant une bonne famille.
Fondant une bonne famille, voilà. De vivre avec des enfants pour les trouver plus tard.
Et apprécier la vieillesse avec la femme qu'on aime. N'est-ce pas? Voilà, voilà.
Oh, que c'est beau l'amour. Hein?
C'est vrai?
Ouais, non?
Sans avoir vraiment aimé une fois.
Parce que vous n'avez pas encore aimé.
Si, mais j'ai encore envie d'aimer, je pense. Ouais, c'est ça. Et peut-être m'aimer plus encore. Moi-même déjà.
Je sais pas plein de choses.
Et c'est quoi ces plein de choses?
Bah, je sais pas. J'aimerais bien avoir fait quoi? J'aimerais bien avoir visité la Chine, l'Amérique, quoi, faire presque le tour du monde. J'aimerais bien aussi coucher avec une femme. Bah, faire plein de trucs comme ça.
T'as quel âge?
J'ai 13 ans. 13. Puis c'est tout.
Et vous, vous voudriez pas crever sans avoir fait quoi?
Sans avoir fait quoi? Sans avoir donné une situation à mes enfants.
C'est-à-dire
que mes enfants soient bien établis. Après, je m'en fiche. C'est leur vie, c'est plus la mienne.
Et vous ?
C'est ma fille.
Oui, je suis sa fille. Sans avoir une bonne situation, pour qu'elle soit heureuse.
Ça, c'est la réponse. Ben oui, c'est l'idéal, c'est d'assurer une bonne situation à ses enfants, qu'ils aient du travail. Le reste, après. Après, ils grandissent, et puis après, bon, ben, c'est tout. Sans avoir vécu. Mais de toute façon, moi, je suis au chômage depuis 6 ans, je sais ce que c'est de ne pas avoir de travail. Donc, c'est primordial pour moi qu'eux aient une bonne situation.
Oh, vous savez, c'est macabre comme question, ça. Hein? Mais c'est pas... Quand on meurt, je ne parle pas qu'ils ont parlé de la mort. On doit mourir si on a bien vécu. Je pense pas, si l'heure est là, on ne doit pas parler de la mort. Il faut dire, je pars sans regret, j'ai bien vécu, j'ai bien vu, j'apporte tellement, j'ai aucun regret. Moi, je partais de ce côté-là. Parce que moi, en plus de Boris Vian, et vous ne me connaissez pas, je suis un personnage... J'étais 300 gardes de cimetière. J'étais un an donc au Père Lachaise. J'étais trois ans à Montparnasse. Donc j'ai montré beaucoup de célébrité aux touristes. Donc moi j'ai bien vécu, j'ai une très bonne vie. Moi je pense que si un jour l'heure doit arriver, je partirai sans regret. Je pourrais dire, j'ai mangé dans les bons restaurants, j'ai été gastronome, j'ai bien vécu et je suis très heureux. Mon heure est arrivée, je pense sans regret. Voilà. Donc, moi, je suis un personnage autrement que les autres, parce que j'étais 4 ans garde de cimetière. Moi, de toute façon, mes heures sont comptées parce que moi, je suis un diabétique. Je suis un grand diabétique, je ne suis pas l'insuline, heureusement, mais mes jours sont comptés, moi. Je le sais. Donc, maintenant, je vis, je me casse pas la tête. On faut prendre la vie de mon côté, quel que soit. On sait que la vie actuellement, il y a beaucoup de pépins actuellement. Il y en a qui sont cardiaques, il y en a qui sont considérés actuellement. On faut prendre la vie de mon côté, puis c'est tout. Hein. Faut pas penser à la mort. La mort, faut pas. Si on pense à la mort, on va ruminer, puis on va plonger. Non, moi, je pense que j'ai quelques années devant moi. Je vais bien aller en profiter. Puis j'ai un autre domaine que l'accordéon. Je fais la peinture. La peinture sur toile, j'ai pas le temps de m'en occuper parce que j'étais à l'hôtel, j'ai bloqué à l'hôtel, mais je vais ressortir mes chevalets, mes toiles, je vais me débrouiller pour trouver un atelier, je sais pas pourquoi, et faire bien ma peinture. Parce que je vais prendre, puis vous écrire deux bouquins, un sur les cimetières, et puis un sur le métro, avant de mourir. Parce que je pense que dans la vie, nous sommes tous des personnages, quel que soit l'individu, puis je pense qu'une fois qu'on est mort, qu'on puisse laisser une trace, soit un tableau de peinture qui est élevé de moi, mais je voudrais faire deux bouquins, voilà.
C'est poilant quand même. La vie, c'est comme quand vous arrivez sur la plage, il y en a toujours qui sont déjà bronzés. Hein? Il y a des connaisseurs, il y en a qui sont déjà là. Des marioles qui sont déjà musclées. Lui, c'est le personnage à l'accordéon, c'est un gars comme ça. Il a compris. Vous voudriez pas crever sans... Je voudrais pas crever sans avoir fait quoi ? Macabre, il a raison, le personnage. Macabre, la question. De toute façon, on n'y peut rien. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. On y peut un peu. On se doit ça. À soi, à la vie qu'on a, qu'on nous a filée, que notre mère bien-aimée nous a donnée. Vous connaissez l'histoire ? Ou bien vous considérez que la mort est un scandale, ou bien vous voyez la vie comme un miracle. Vous pouvez voir le contraire. La vie est un scandale et la mort est un miracle. Et quand même, on n'est pas obligé de tout subir. Tout fatalité, destinée, tout écrit, tout mektoub. Non, on a un petit peu, pas des masses, pas des bottes, mais le peu qu'on a qui nous revient, qu'est-ce qu'on en fait ? Prise de tête, si l'on songe à la mort, à l'ultime fin des haricots, ça peut aussi vous décider, ça peut vous pousser, filer du courage, s'organiser, penser à bouffer une plâtrée de haricots avant l'enterrement du directeur, par exemple, pour que ce soit réussi. Thank you.
Vision, il a réfléchi avant hein, de répondre. Ah, voilà, donc moi, je sais pas du tout, en fait. Alors déjà, j'aimerais bien voir ma famille réunie. Je crois que c'est une chose qui me tiendrait vraiment à cœur, d'avoir tous les gens que j'aime autour de moi. Et puis après, ce sera des choses abstraites. Le tour du monde, pourquoi pas. Non. Non, le plus important, c'est ma famille, quand même. Mais sinon... Fumer une petite cigarette avant de mourir? Non. Je sais pas.
Un petit pétard avant de mourir?
Non, je sais pas, non.
Vous disiez fumer un petit pétard.
Oui, pourquoi pas? Avant de mourir, ça vaut le coup. Y a ça ou je sais pas, non, mais quelque chose de plus... Déjà, de voir mon frère revenir à la maison sans problème. Déjà, parce que mon frère, il est plus chez moi et ça se passe très mal, quoi, en fait. Et l'enfroid avec mes parents, moi, je le vois plus, mes parents non plus, quoi.
Oh mon Dieu, ça, c'est une chose bien difficile. Je n'ai vraiment pas pensé à cette chose-là. Moi, je voudrais visiter le monde. Mais à part ça, il y a beaucoup de choses à faire, mais laquelle choisir? Je ne sais pas. Soulager le monde, ça, bien sûr, si c'est dans mes possibilités, mais hélas. Les enfants, surtout. Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on entend ou que l'on voit qui sont vraiment très pénibles aujourd'hui. Je crois que c'est ça l'essentiel.
Moi, je pense que je ne voudrais pas mourir sans être en plénitude avec moi-même.
Ah oui.
Sans être, c'est vrai, parce que tous les jours, j'ai l'impression que ça ne va pas, quoi. Tandis que je n'aurais pas voulu mourir sans savoir vraiment qui je suis, ce que je peux faire, sans être bien avec moi-même. C'est pour ça d'ailleurs que j'essaie, je viens, je prie, j'essaie de faire certaines choses, quoi.
Quand vous avez dit comment, là? Je ne voudrais pas crever, c'est ça? Non, pas pour l'instant, non. Vraiment pas, non.
Et sans avoir fait quoi, vous voudrez?
Sans avoir fait quoi? Oh là là, c'est une question difficile. Je pense profiter le plus possible de chaque moment de la vie, quoi.
Comme vous étiez en train de faire, tous les deux enlacés?
Exactement. C'est ça, ouais.
Et vous?
Moi, je ne suis pas français.
Elle est hollandaise. C'est
rire.
Elle parle pas très bien français, mais je pense que profiter de la vie, quoi, au maximum.
Et c'est quoi profiter de la vie?
Les sentiments, les émotions qu'on ressent à chaque instant. Simple, mais compliqué à la fois, quoi.
Vous faites quoi dans la vie?
Rien, chômeur. Et voilà, j'habite le quartier, donc je me promène souvent par ici, quoi. Et j'aime bien la tranquillité et profiter de chaque instant, comme je vous ai dit, quoi. Je pense que c'est important.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peu s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur de bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'enfilerai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai en demain où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Je n'ai pas laissé un mot d'espoir pour mes enfants et pour tout ce que j'aime. Ça serait de leur dire que la vie est belle et qu'il faut la vivre. C'est tout.
Ah, c'est bon. Touche pas les deux, quoi.
Le pire, c'est pas ce qu'on n'a pas. C'est pas ce qu'on n'aura pas. Le pire, c'est ce que la vie vous a donné et qui vous est repris. Les jouets, les maisons, les amours, les miens, les nôtres, comme on dit, les miens. Abandonnés. On est vachement fragile. Un, il a raison, le personnage. Macabre la question. Deviant. Je voudrais pas crever sans avoir...
J'ai fait tout dans ma vie et je peux mourir maintenant, ça m'est égal. J'ai tout fait. J'ai eu tout dans ma vie. J'ai eu le luxe, j'ai eu l'argent, j'ai eu la fortune, j'ai tout. Vraiment. Là, je pars à Cannes pour 12 jours encore au Majestic, comme je vais 3 fois par an. J'ai tout dans la vie. Vraiment tout. J'ai habité à Londres où j'ai eu une maison de couture. J'ai fait des robes pour Lady Diana. La robe de fiançailles, c'est moi qui l'ai faite. J'ai fait 2 robes pour la princesse Margaret de Londres, la sœur. Donc j'ai tout. Mourir, ça m'est égal. J'ai vraiment eu tout.
Vous êtes qui ?
Michel Jean Sachaud. Et la maison de couture s'appelait Netty Vogue.
Qu'est-ce que je pourrais souhaiter avant de crever ? Je sais pas. Une femme, j'en ai une. Baiser, ça va. Je sais pas.
Avoir une Rolls, c'est un chauffeur. C'est mon seul dada. Sinon, j'ai tout.
C'est de pas avoir couché avec madame.
Oh là !
Elle me pose une question, je lui réponds. Et peut-être que ça serait le plus beau jour de sa vie aussi. Hein.
C'était une babo.
Madame Manin, je voulais parler la face interne.
Tu veux faire
voilà la question.
Oui, en pleine forme. Je suis prête à danser la java, prête à rigoler et prête à être avec les jeunes. Et vive la France.
Et avant de mourir, vous voudriez faire quoi avant de mourir?
Avant de mourir, la communion et la confession. C'est suffisant de voir mes enfants, mes petits-enfants, tous les gens qui m'aiment bien.
Avant de crever, j'ai plus grand-chose à faire à mon âge. Hein. Enfin, je vis. Tous les jours, c'est un jour de gagner. Je crois que j'ai réussi ma vie au-dessus de mes espérances à 18 ans. J'étais considéré malade et fini. Alors, chaque jour, j'ai quadruplé mon âge.
Vous avez quel âge ?
75.
Et vous aviez quoi comme maladie ?
La tuberculose, à l'époque, était une maladie comme le sida aujourd'hui. C'est une question de chance. Parce que j'ai tenu 14 ans étant malade, jusqu'à l'opération que j'ai acceptée à ce moment-là de me faire, l'opération qui m'a sauvé parce qu'il y avait la streptomycine qui est arrivée en même temps. Et à l'époque, je n'avais pas d'espoir, je n'avais pas de rêve de pouvoir arriver plus haut, plus loin. Et la guerre, l'occupation, les Allemands, tout ça, j'ai passé. Que les autres, des camarades, plus jeunes, en bonne santé, sans mort, ou à la guerre, ou en déportation. Personnellement, j'étais aussi dans les camps. J'étais à Bonne-Larlande et à Drancy. À Bonne-Larlande, j'ai passé 3 semaines et on a entendu chez mes parents que moi, j'étais mort. Il y avait un mort d'une crise cardiaque. Et on avait, dans la rue de mes parents, on savait que c'était moi. Et alors, je suis arrivé un beau jour avec mon sac à dos et dans la rue. Et tout le monde a dit, oh non, j'étais libéré un jour avant la déportation. Je me suis marié, j'ai une fille et j'ai une petite fille. Alors, on ne peut pas avoir mieux.
Comme on ne doit pas crever, on n'est pas des chiens. On meurt comme des gens. Une bête, ça crève. Les gens, ça ne crève pas. Ah non, il ne faut pas dire ça. Comme tout le monde, je vais mourir en bonne santé. Pas rester malade des années dans l'hôpital. Quand on s'endort et on ne se réveille pas. Je vais vivre jusqu'à 100 ans sans être malade, c'est tout.
Avoir descendu la face nord-ouest du Mont Blanc à ski.
Et quand vous l'aurez fait, cette descente, après, la vie sera finie ?
Oh non, du tout.
Alors, qu'est-ce qui vous restera ?
Plein d'autres face nord.
Très belle question. Peut-être être très heureuse.
Parce que vous ne l'êtes pas ?
Pas forcément. Se sentir heureux. Arrêter d'avoir des tracas continuels. Par exemple, avoir une période où on peut se sentir simplement bien.
Et ça ne vous arrive pas ?
C'est très rare. Vous savez bien que la vie actuellement n'est pas facile. Simplement, même si vous n'avez pas vos problèmes particuliers, il y a une situation mondiale qui ne peut que vous rendre inquiet et malheureux. Enfin, moi, c'est comme ça que je le sens. Je ne peux pas être heureux en voyant des SDF. Je ne peux pas être heureux en voyant des enfants à Belleville, tiens, qui sont atteints du saturnisme. On ne peut même pas les loger. À côté de chez moi.
Non, 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 non. Non, 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 non. Rien de rien.
Quel baratin. Mourir en disant je regrette rien. J'ai jamais cru une chose pareille. Qu'est-ce qu'on doit regretter? Moi j'ai des trucs à regretter. Il y a que des trucs à regretter. Comment est-ce qu'on peut... Alors j'arrive pas à croire à cette sagesse là. Même au bout des kilomètres. Même au bout des kilomètres. Ça a l'air de rien la question, je voudrais pas crever sans avoir fait ci, fait ça, etc. C'est une sacrée question. C'est pourtant... On se dit, qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu fous de ta vie? Qu'est-ce qui te consume? J'ai pas dit consomme. Qu'est-ce qui te consume? Est-ce que t'as voulu ce qui te consume? Est-ce que t'acceptes ce qui te consume? Vous vous rendez compte? Vous êtes peinard en train d'écouter la radio. Vous dites, tiens, je vais mettre la radio pour me détendre un petit peu. Et voilà que des gars vous emmerdent avec des questions pareilles. Je sais pas si vous devriez rester.
Voilà, je suis toxicomane depuis une dizaine d'années. Actuellement, je suis sur un programme méthadone pour m'en sortir. Mais je suis séropositif, donc je sais que je vivrai pas jusqu'au-delà de 50 ans en calculant au plus long. Mais s'il y a une chose que je voudrais faire avant de mourir, c'est de partir aux Indes pour finir ma vie là-bas. Puisque une chose qui coûte là-bas 10 francs le gramme et qui est à 90%, on la paye 800 francs le gramme ici et elle est à 10%. S'il y a une chose que j'aimerais avant de mourir, c'est partir aux Indes pour pouvoir faire ce que j'aime faire en toute impunité, en ayant la qualité et un prix raisonnable pour une plante en fait qui ne coûte rien. Bon, actuellement la méthadone m'évite la délinquance, ça m'a permis d'avoir un studio, ça me permet de travailler, etc., d'être comme tout le monde. Mais je me vois pas vivre sans opiacés. Donc si je sais que je dois mourir, d'ailleurs c'est prévu avec mes parents, si un jour les médecins me disent qu'il me reste plus longtemps à vivre, je partirai aux Indes et je me finirai là-bas. Voilà, c'est ma dernière volonté avant de mourir.
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nus, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid truffé de bulles.
Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon sob dans les coins bizarres.
Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre. Ah ben j'en ai eu mieux, j'en ai eu presque. Pour cette maladie qu'on attrape là-bas, le bon ni mauvais, ni me ferait de peine, si je savais que j'en aurais l'éternité.
Et il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît, le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues, sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères, et les baisers de sel, que ceci, que cela, la belle que voilà, mon ourson, l'Ursula.
Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux, j'en dis pas plus. Faut bien rester révérencieux.
Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de 2 heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur. Voilà, la fin de la douleur. Les journaux en couleur, tous les enfants contents. Alors, la fin de la douleur, tous les enfants contents.
Et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes, des génieux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs, tant de choses à voir et à entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir.
Et moi, je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche.
Je ne voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort, je ne voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.
Merci à tous, c'était un reportage de Christelle Loigereau et la voix qui au début de cette émission disait le poème de Boris Vian, c'est la voix de Pierre Brasseur, je dis, parce que je suis sûr que vous allez nous demander. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, la technique aujourd'hui, Claudine Laperson et Éric Morin. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Le, Pascariello et Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37 et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Et n'oubliez surtout pas, lundi soir, 20h30, au théâtre de Jazet, à Paris, métro République, 41 boulevard du Temple, le procès du siècle, carrément, le procès de BHL, la réhabilitation de BHL, trop critiqué, trop harcelé par certains, et nous sauverons BHL ce soir-là. Il faut sauver notre philosophe national, toute une pléiade d'intellectuels, eux aussi, de journalistes, de dessinateurs, d'avocats, etc., et de musiciens participeront à ce procès historique. Vous pouvez réserver vos places au 01 48 87 52 55. 01 48 87 52 55. Je rappelle qu'en venant avec une chemise blanche déboutonnée jusqu'au lombril, il y aura des réductions. Voilà. Réclame.